Bonsoir à tous et bienvenue à ce 554e podcast de Triple Option. Après un retour fulgurant la semaine dernière, on a complètement oublié de vous parler du repêchage. Cette semaine, on s'attaque finalement aux espoirs de 2024. Avant toute chose, on va commencer avec mon seul et unique collaborateur, Wallet. Salut mon vieux, comment ça va?
Yes, ça va super bien. Écoute, comme tu viens de le dire, Faf, la semaine passée, on s'alignait pour faire un gros show, qu'on parlait des nouvelles, qu'on parlait des espoirs du repêchage, puis on a juste dérapé. On a parlé pendant une heure de temps des nouvelles des trois derniers mois dans le college football. Ça a été hyper intéressant, une belle discussion. Ça nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'aller voir notre thérapeute une fois par mois quand on se parle une fois par semaine. Puis, écoute, je suis excité. On va parler du repêchage. On va parler aussi de comment qu'on approche ou comment qu'on se prépare à l'approche du repêchage cette année. Un peu différent des dernières années, spécialement. Je me rappelle en 2020, lors du COVID, lorsque tout était fermé et qu'on ne pouvait absolument rien faire, je m'étais vraiment investi dans la préparation du repêchage. C'est pas tout à fait le cas cette année, mais on en parle plus tard.
Yes. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet, puis on va finalement commencer notre premier segment repêchage 2024. Yes, donc... Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on discute un peu, comme tu viens de le dire, de ce que tu as fait pour te préparer au repêchage cette année.
La réponse honnête, Faf, absolument rien. Puis je t'explique pourquoi. Comme que j'ai dit dans les années dernières, spécialement en 2020, 2021, ça a diminué en 2022 lorsque je suis devenu père et que je suis devenu un peu plus occupé, je passe extrêmement beaucoup de temps à regarder du tape, regarder les joueurs, lire les analyses qui étaient faites sur eux, pour me rendre compte qu'au final, qu'importe ce que nous on voit, si une équipe de la NFL ne voit pas ça ou que voit quelque chose de différent, repêche un joueur puis que ce gars-là n'est pas à la hauteur du talent, on s'en débarrasse rapidement. Puis je pense automatiquement à la QV de repêchage de 2021, alors qu'en première place, on a eu Trevor Lawrence qui... Bon corps arrière, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui. Zach Wilson, numéro 2 avec les Jets. Parce que les Jets l'ont échangé, si je me rappelle bien, durant la saison morte.
Je me rappelle pas, mais il va-tu rejouer au football dans sa vie?
Probablement pas. Par la suite, on a eu au troisième rang les 49ers ont tout donné pour s'avancer, repêcher le gars de Utah State. J'oublie son... Je pense que c'est pas Jordan Love. J'oublie son nom. Tout ça pour dire que ce joueur-là a été échangé aux Cowboys de Dallas. Par la suite, on a eu Tom Boys.
Mac Jones,
qui n'a rien fait d'exceptionnel avec les Patriots. Puis on a eu aussi naturellement Justin Fields avec les Bears de Chicago, entre tout ça, qui lui aussi a été échangé durant la saison morte. Donc là, on se retrouve avec 5 gars qui n'ont rien cassé. Puis tu te dis, ok, j'ai perdu des heures à analyser ces gars-là pour au final que ça valait rien dire. Donc cette année, Faf, mon approche est complètement différente. J'y vais 100% avec ce que j'ai vu en 2023 sur le terrain, 2022, 2021 dans certains cas. J'y vais avec l'expérience que j'ai en tant que fan de college football, un gars qui regarde plusieurs matchs à chaque fin de semaine pour évaluer les joueurs. Je ne serai pas là pour vous dire « Ah, ce gars-là a eu un combine exceptionnel, je ne vais pas regarder le combine ». J'y vais 100% avec ce que mes yeux m'ont montré durant les deux ou trois dernières saisons.
Yes, je peux pas être plus d'accord que toi parce que on a beau faire toutes les analyses, au final, ça sert à quoi et à qui. Ça, historiquement, m'amusait un peu d'essayer de regarder, d'essayer d'analyser avec un œil justement d'expert, voir le throwing motion de tel QB, puis voir est-ce que son coude, son pied, ses hanches pour être à la bonne place, s'en va à bonne affaire. Est-ce que ses prises de décision sont... est-ce que les statistiques de ces prises de décision sont vraiment ce qu'elles reflètent sur le terrain, les choses comme ça. Puis, au final, comme tu l'as dit tantôt, off the record, il n'y a pas un analyste NFL qui nous écoute puis qui voudrait savoir notre opinion. Puis, la réalité, c'est qu'on consomme tellement de matchs de football dans une année que moi, pour ce classement-là, c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis c'est même pas un classement, en fait. C'est pour cette énumération de noms-là. Mm-hmm. C'est comme ça que je vais l'appeler aujourd'hui parce que quand tu as soumis tes noms à chacune des positions, j'ai fait exprès de prendre des joueurs complètement différents des tiens pour qu'on parle du plus grand nombre de joueurs possible, qu'on parle du plus grand nombre de prospects possible parce que, oui, c'est bien beau savoir qui va sortir premier dans chacune des positions puis qui c'est qui va sortir dans le top 10. Sauf que si toute ton équipe draft en 20e position, là, puis tu te ramasses avec le 3e meilleur receveur de sa classe ou le 4e ou le 5e meilleur receveur de sa classe, ben t'en as-tu déjà entendu parler? Si oui, mm-hmm. c'est parce que tu l'as vu jouer? Qu'est-ce que tu entendais au sujet de ce joueur-là? Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de un peu plus ces joueurs-là qui vont peut-être finir en fin de première, peut-être en début de deuxième ou peut-être même qu'ils vont être repêchés vraiment plus tard parce que j'ai essayé d'y aller vraiment champ gauche. Puis j'ai essayé de me fier à des métriques, si on veut, qui sont un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Le 40 verges, c'est une chose, le broad jump, c'est une autre affaire. Sauf que la réalité, c'est que il y a d'autres types de chiffres statistiques avancées qu'on pourrait appeler qui peuvent vouloir dire certaines choses, comme ça peut ne vouloir rien dire du tout. Mais au final, tant qu'à faire de la préparation pour dire n'importe quoi, aussi bien de faire le moins de préparation possible avant de dire n'importe quoi.
Non, mais pour vrai, c'est vrai qu'au final, si on parle à la majorité de nos fans puis qu'on fait un débat sur Jaden Daniels, on peut faire 10 minutes de débat sur lui. Mais si... toi, tu t'arrives puis tu dis « Hey, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Jordan Travis. Jordan Travis ne sera pas repêché en première ronde, ne sera pas repêché en deuxième ronde. Il va probablement sortir au troisième jour à cause de sa blessure. Ça ne fait pas de lui un mauvais QB puis ça peut devenir un très bon deuxième violon dans la NFL. » Puis je pense que c'est une approche qui est humble puis on se prend pas pour d'autres. Puis c'est ça qui est important.
On fait pas semblant, ouais. All right, ben on va commencer ça sans plus tarder, justement, avec les fameux QB. On peut y aller à tour de rôle, en fait. Tu me nommes un nom, on en parle un peu. Je te nomme un nom, on en parle un peu. Puis on alterne comme ça. Fait que si tu avais un QB à me parler là, pour le repêchage qui s'en vient, ça serait lequel? Puis qu'est-ce que toi, t'as vu là, pour ce QB?
Ben, avant rentrer dans le vif du sujet avec un nom en particulier, il faut que je parle de la classe en général. Moi, c'est une classe qui ne m'inspire pas beaucoup. Puis c'est pas que j'aime nécessairement pas les joueurs, mais c'est qu'il y a tellement une ruée en ce moment dans la NFL vers les carrières, puis je regarde les équipes au sommet du repêchage que j'ai pas espoir qu'une équipe comme les Bears, une équipe comme les Commanders ou même les Patriots qui vont probablement repêcher des QB 1, 2, 3, soit en mesure de transformer un de ces joueurs-là. Ça va être un... Si un de ces joueurs-là qui réussit à devenir une superstar, ça va être un work in progress. Ça ne sera pas instantané. On parle de plusieurs années. Mm-hmm. Puis pour cette raison-là, ben, j'aimerais ça parler en premier de Caleb Williams qui, sans l'ombre d'un doute, devrait être repêché numéro 1. On le sait, je l'ai dit tantôt, Justin Fields a été échangé contre une poignée de 25 cents puis un choix de 5e ronde aux Steelers de Pittsburgh. Donc, les Bears de Chicago en ce moment sont on the clock puis ils n'ont aucun QB 1 dans leur équipe. Une chose que j'aime par contre, c'est qu'on a fait des beaux ajouts, on est allé chercher des bons receveurs, on continue de bâtir une ligne offensive qui est pas si pire. Donc, on donne des chances à Caleb Williams, mais le problème que j'ai avec Caleb Williams, c'est que ça fait 2 ans qu'on nous dit que oh, ce gars-là, de la manière qu'il joue, c'est le prochain Patrick Mahomes. Time out. Patrick Mahomes est dans une classe à part. Même s'il ruine tous mes dimanches puis il ruine tous mes Super Bowls depuis 5 ans, il reste un joueur unique, un joueur qu'on n'a jamais vu. C'est un mutant d'une autre planète. Caleb Williams, en ce moment, a un potentiel d'être excellent, mais arrêtez les comparaisons avec, avec notre ami Patrick Mahomes. Caleb Williams, en ce qui me concerne, c'est pas point de vue talent, point de vue habileté que j'ai des doutes. C'est vraiment au point de vue de son coco, qu'est-ce qui se passe au deuxième étage. On l'a vu dans l'adversité, c'est pas quelqu'un qui réussit très bien. Puis là, on t'envoie avec les Bears de Chicago, une équipe qui a toutes les misères du monde à aligner des saisons de 5-6 victoires depuis quasiment plus de 10 ans maintenant. Donc, la pente va être difficile, puis j'ai hâte de voir comment il va réagir. Je ne sais pas si tu as une opinion là, sur Caleb Williams personnellement.
Ben moi, en fait, c'est plus une question pour toi. Il était-il éligible au repêchage l'année passée, lui?
Non. Parce que dans le fond, c'est un sophomore, ouais. Puis à sa première année,
junior,
Comment?
Faut que tu sois junior pour être éligible au repêchage.
Faut que tu sois junior ou sophomore avec une année avec un red shirt. Okay. Donc, si ta première année, tu ne joues pas, tu peux te repêcher sophomore. Dans son cas, on s'en rappelle, en 2021, Faf, il était le deuxième violon derrière Spencer Rattler à Oklahoma. Mm-hmm. Puis Spencer Rattler avait toutes les misères du monde, les fans des Sooners réclamaient Caleb. On l'a finalement eu. Puis quand Lincoln Riley a décidé de lever les feux et partir pour Los Angeles, devenir le coach des Trojans de USC, Caleb Williams l'a suivi. Puis ben, le reste, ça fait partie de l'histoire. Là, on parle d'un gars qui a remporté un trophée Heisman pardon, en 2022. Une saison 2023 à oublier. Comme que je te dis, Faf, tu regardes le gars jouer, tu regardes ce qu'il est capable de faire. J'ai aucun problème avec les attributs de ce gars-là. Mais les difficultés sur le terrain, jouer avec une équipe avec des difficultés à tous les niveaux, puis surtout jouer contre des défensives de la NFL, ça va être difficile. Puisque cette année, je viens de le dire, USC ont eu des difficultés. Puis ça a donné qu'ils ont affronté des défensives qui n'étaient pas piquées des verts. Puis c'est là que Caleb Williams a eu toutes les difficultés du monde à établir son jeu.
Au niveau de la maturité, là, tu sais, on essaie beaucoup de... Comment je peux dire, de lui donner des. Ses statistiques sont là. Sur papier, les statistiques sont là, j'ai pas de problème. Là. L'année passée, il a lancé pour genre 4500 verges, cette année 3800. C'est une régression pour moi. Puis là, ben, avec tous les petits spikes, il y avait un bon vidéo de Brett Coleman qui avait sorti au sujet justement de Caleb Williams qui disait qu'est-ce qui se passe avec lui, puis tout le kit. Puis là, il était comme, ben, il faut juste le lâcher. Là. C'est un kid qui est un kid, puis il fait ses affaires de kids, puis il y a 20 ans, puis nanana, puis. Fait. Ça, pour moi, c'est vrai. Ça peut expliquer un tas de choses, mais ça peut aussi être un genre de red flag dans le petit coup. Ça se peut que ça me tente pas d'avoir un gars qui est jeune, justement, puis qui est un peu immature à ce niveau-là. T'sais. Fait que t'as raison de dire que c'est au niveau de son coco que ça se passe. Moi, qui se peinture les ongles en rose ou qui a un cell case en rose, je m'en fous. C'est pas ça mon point. Là. C'est juste que comment tu vas handle la pression puis justement le step-up si tu manques un petit peu de cette maturité-là. T'sais. Fait que moi, c'est surtout ça là, qui me parle à son sujet. bonne question de Mathieu qui dit « Selon toi, Wallet, qui va avoir la deuxième meilleure saison? Bryce Young ou Caleb Williams? » Une saison recrue, excuse.
C'est une bonne question. Écoute, Bryce Young a extrêmement déçu l'an dernier. Je pense que la barre est tellement basse que je pense que Caleb Williams peut avoir moindrement de succès. Puis les Bears, comme ce que j'ai dit, font des bons mouvements dans l'entre-saison pour justement bien entourer leur corps arrière. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça soit Caleb Williams.
Il y a problème. Avant de commencer à vous parler des autres choix, dans le fond, là, je vais vous montrer le big board là, de. Le big board de. Excusez, j'ai passé l'onglet de rouvert en même temps.
Le big board de PFF, dans le fond, qui, en temps normal, je vais le rappeler aux auditeurs, on servait gros de leur. Ils sortent un espèce de document de 300 pages, 600 pages qui explique tous les prospects du repêchage. Puis on sert de ça à chaque année en temps normal pour un peu se guider vers le repêchage. Puis cette année, ben, sur Reddit, on a trouvé comme leur big board puis comment ils ont divisé les joueurs. Tu m'étais arrivé avec ça dans le podcast, je trouve ça incroyable. Donc, ceux qui nous écoutent en audio seulement, désolé. on va essayer d'y aller puis de donner le plus de détails possible. Je sais pas si tu veux expliquer comment ils ont divisé leur...
Ouais, mais là, on est en train de parler des QB. Fait que le tableau, il est divisé en élite, dans le fond. Fait que des gars qui sont top 5. Après ça, des joueurs de première ronde, deuxième ronde. Donc, un top 20, top 40, top 60. Présentement, dans le élite, donc top 5... Eux parlent de Caleb Williams et de Drake May. C'est les deux seuls. Toi, Drake May, est-ce qu'il faisait partie de ta liste des joueurs que tu voulais nous parler?
Oui, Drake May, je l'ai comme mon deux. Puis en ce qui me concerne, j'ai Caleb Williams comme troisième corps arrière. Je sais qu'il y a des gens qui vont grimacer quand que je dis ça, mais comme tu as dit, pour toutes les raisons d'immaturité, j'ai quand même des doutes. Du côté de Drake May, je l'ai classé deuxième. J'ai adoré ce que j'ai vu de Drake May en 2022 lorsqu'il était une recrue. Ça ne s'est pas vraiment transmis en 2022. Puis c'est un peu là que j'ai des craintes. C'est un gars qui, selon moi, la progression n'a pas été aussi bonne que j'aurais aimé le voir. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui lance des beaux ballons. Je le trouve très précis dans ses lancers. Mais j'ai des doutes avec sa progression. Puis là, tu t'en vas jouer dans la NFL avec une équipe qui potentiellement devrait être, selon les rumeurs qu'on entend, les Commanders de Washington. C'est une équipe qui a encore plus de trous que les Bears de Chicago. Donc, c'est pas une tâche qui va être facile pour lui. Mais il y a quand même un groupe de receveurs qui est intéressant. Donc, Drake May pourrait être aussi une belle surprise là, dès septembre prochain.
Yes. Ça m'amène à parler de mon premier. En fait, là, si on retourne au tableau, là, avant que moi, le premier que je voulais vous parler, ça va nous amener un petit peu plus bas dans le top 80, en fait, là, donc entre la 2 et la 3e ronde. Je veux vous parler de Spencer Rattler. Tu en as parlé tantôt quand tu as parlé de...
Caleb Williams,
que c'est lui qui a benché finalement Spencer Rattler, puis qui a poussé un peu Spencer Rattler complètement en dehors là, de Oklahoma. Ça reste quand même que ce gars-là, après avoir changé d'université, a connu son meilleur football en carrière, a connu ses deux meilleures saisons en 2022 en 2023 avec les Gamecocks, des saisons de plus de 3000 verges dans les deux cas. Présentement, on parle de J.J. McCarthy comme étant quelqu'un qui est dans un top 1-2. Il n'a même pas fait ça en carrière, une saison 3000 verges. Là, t'sais, fait que Spencer Rattler l'a fait. moi, ce que j'aime, c'est que il a 69% de pourcentage de complétion. Il a 19 touchdowns, 7 saisons seulement, un ratio 19 pour 8 interceptions. Donc, on en parle vraiment moins depuis qu'il est transféré, même ici au podcast, en fait. On en parle moins de lui. À l'époque, on en parlait pour le chienner, puis là, on n'en parle plus du tout, ou à peu près pas. Ben, ça, pour moi, ça reste quand même un gars qui peut aider une équipe. Là, quand on parle des 32 équipes dans la NFL qui n'ont même pas de carrière numéro 1 à chaque année, ben ça peut valoir la peine d'aller chercher ce gars-là, de le laisser sur ton bench, essayer de le faire développer. J'ai pas d'idée de fit avec une équipe quelconque, mais l'idée, c'est juste de... Il peut t'amener un plus high value qu'un début de troisième ronde dans ton équipe. C'est seulement ça que j'essaie de dire pour Spencer Rattler. Puis ça me fait un peu rire que justement les gens n'en parlent pas alors que statistiquement, il n'est pas si mauvais que ça là, pour cette année. Est-ce qu'il a fait gagner son équipe? Bien sûr que non. Mais est-ce que son équipe est une équipe gagnante? Bien sûr que non plus. Fait que...
Puis j'aime que tu parles de Spencer Rattler. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Puis voyons donc qu'il parle de Spencer Rattler. C'est quand même un gars qui, lorsqu'il est sorti du secondaire, était très très hype. On parle d'un gars qui était vu comme une des meilleures. Exactement, un five-star qui était vu comme une future star. Est-ce qu'il s'est développé au niveau qu'on aurait aimé? Absolument pas, mais dans son cas, puis mettons dans le cas de Caleb Williams, c'est un peu la même chose selon moi. Le hype était là, puis dans les deux cas, on dit « Ouais, ce gars-là, on a des doutes sur sa maturité. » On l'a vu avec Spencer Rattler dans le college football. Est-ce qu'on va le voir avec Caleb Williams une fois dans la NFL? C'est un peu là que je rajoute des points d'interrogation là, à mon équation.
C'est clair. Ben, je vais t'amener d'autres points d'interrogation avec mon deuxième choix en fait dans la liste des QB. Si on veut se fier au PFF Top 300 Big Board, faut que je vous amène dans ce qu'eux qualifieraient de quatrième ronde, donc un top 140. Puis je veux vous parler de Jordan Travis. Jordan Travis, c'était le QB de Florida State. C'était le QB qui, si vous l'avez oublié, s'est blessé, blessure grave en cours de saison, tellement grave que ça a kické son équipe en dehors du College Football Playoff. Puis c'est là que je veux parler de ce joueur-là. Sa dernière année, ses deux dernières années, en fait, là, a vraiment dominé cette équipe-là, a vraiment porté cette équipe-là sur ses épaules à des moments cruciaux, à des occasions bien spéciales, des saisons de près de 3000 verges au complet. Cette année-là, c'est quand même un ratio de 20 passes de toucher pour 2 interceptions seulement. L'année précédente, 24 passes de toucher pour 5 interceptions. Donc, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui fait attention au ballon, on va pas créer des revirements. Ce genre de statistiques-là, ça me laisse savoir qu'il va pas pitcher dans un triple coverage juste pour étirer un jeu. Ça, c'est quelque chose que du côté, par exemple, de Caleb Williams, à certaines occasions, ça m'énervait parce qu'il avait tellement confiance dans son bras qu'il était juste comme, il va avoir quelqu'un par là puis il lançait très fort et très loin. Donc oui, c'est impressionnant comme de le voir, mais en réalité, c'est que tu ne fais pas attention au ballon. T'sais. Puis Jordan Travis, ben, vous avez pu le voir là, dans le tableau, il y a un gros red flag à côté de lui. Puis son red flag, c'est évidemment sa blessure. Mais des blessures comme ça en 2024, si une équipe veut mettre la main sur un potentiel futur joueur, QB partant, là, parce que d'après moi, ce gars-là, c'est un gars de... C'est un top 32 dans la NFL. Là. Il pourrait avoir une job de top 32 dans la NFL. Ben, tu lui laisses le temps de s'asseoir, de penser sa blessure, de recover à 100% de cette blessure-là. Ça peut devenir un QB qui... C'était pas un QB, pardon, qui courait vraiment énormément. Beaucoup cette année. Fait que rendu là, ben, tu sais, t'en fais un pocket presence QB, puis tu le fais juste bien gérer un ballon. D'après moi, il y a du potentiel dans lui. Donc, je comprends la blessure que ça l'amène au quatrième rang, mais je pense que si une équipe met la main sur lui fin troisième, début quatrième, c'est quand même un high value pour le pick à ce niveau-là. T'sais.
Surtout qu'une équipe qui pourrait être à la recherche d'un corps arrière dans les 3 ou 4 prochaines années, tu as un gars comme Jordan Travis. J'aime le fait qu'on parle de lui parce que naturellement, c'est pas un top 5 QB sur aucun board à cause de sa blessure. Mais le potentiel il est là, puis je suis pas en désaccord avec toi quand tu dis qu'il y a 32 équipes dans la NFL, puis à chaque année, il y a un repêchage, puis à chaque année, il y a 3, 4, 5 équipes qui cherchent un nouveau meneur de jeu. Jordan Travis pourrait être une carte cachée qui sort plus loin dans le repêchage. Un peu comme Hendon Hooker l'an dernier avec les Volunteers du Tennessee qui a été repêché par les Giants de New York, si je me rappelle bien. Même son cloche. Le gars a un ACL, il est derrière Daniel Jones. Pour combien d'années, Daniel Jones? Prends le temps de te récupérer ta blessure, mon homme. Puis quand on est tanné de Daniel Jones, bon, on va peut-être te donner ta chance. Puis peut-être que tu as trouvé le carrière des 5 prochaines années pour ton équipe.
Non, exactement. Depuis le début, on a parlé de Caleb Williams, on a parlé de Drake May. Tu nous en as parlé, en fait. Puis dans le top, dans le big board de PFF, ils sont aussi dans le top premier tiers, là, dans le tiers élite qu'on va appeler. Avant de parler de ton boy, Jaden Daniels, c'est pas le gars qui vient de gagner le Heisman Trophy, ce dude-là? Oui. Puis là, il se retrouve, selon le Big Board 30, en première, deuxième ronde, donc fin de première ronde, début deuxième ronde, donc dans un top 40. Donc oui, une équipe va vouloir aller chercher Jaden Daniels, mais ça sera vraiment pas une priorité. Toi, tu le mets top 1 dans ton top à toi. Pourquoi? C'est quoi la si grosse différence? Là? Il vient de gagner un Heisman, puis même PFF sont pas très chauds sur lui.
Ben écoute, le problème avec Jaden Daniels, c'est le problème que j'ai avec toutes les carrières mobiles. Une fois qu'ils se font repêcher, il faut que tu te fasses repêcher au bon endroit, qu'ils veulent prendre la peine de te laisser jouer à ta manière. Je prends l'exemple de Justin Fields. On en a parlé plusieurs fois depuis le début du podcast. Je pense que Justin Fields avec les Bears de Chicago, quand on lui donnait un peu le feu vert de faire un peu ce qu'il voulait sur le terrain, de lancer le ballon, de courir avec la balle, il montrait de très belles choses. Puis après ça, on dirait qu'on changeait le schéma de jeu, le plan de jeu, puis on lui demandait d'être qu'est-ce qui est pas, qui est un pocket passer. Donc, je suis capable déjà d'imaginer une équipe de la NFL, troisième qui repêche troisième, exemple les Patriots, qui lui demande joue un style de jeu qui n'est pas le tien. Un gars comme Jaden Daniels, naturellement, je le classe premier parce que c'est mon boss de LSU, mais c'est un gars qui me fait penser à Lamar Jackson. Puis quand Lamar Jackson a été repêché, il a été repêché 32e au total par les Ravens qui sont revenus en première ronde pour le repêcher. Puis les Ravens se sont dit « OK, on va adapter notre style de jeu à ce gars-là. Ce gars-là va être notre futur. » Puis c'est là que j'ai tout le temps un point d'interrogation. Je me dis « OK, si une équipe comme les Patriots le repêche ou une équipe s'avance dans le top 3, top 4 pour le repêcher, puis on décide de vouloir changer son style de jeu, ben je te garantis que dans 5 ans, il va être backup, puis il va avoir été changé, puis il ne sera plus un joueur important. Puis c'est pour ça que, malgré le fait que je le classe premier dans mon classement, c'est pas un gars que je voudrais voir partir premier avec les Bears de Chicago, parce que j'ai l'impression que il y a certaines équipes qui sont capables de développer ce type de joueur-là. Je vois pas les Bears étant comme une de ces équipes-là. Puis je parlais tantôt de Lamar Jackson. Je fais une comparaison peut-être un peu boiteuse, mais je pense aussi à Josh Allen quand il a été repêché par les Bills de Chicago un peu plus tard en première ronde. Je me rappelle bien, c'était aux alentours du 10e ou du 11e choix. Josh Allen a un style de jeu très unique à lui-même. Puis les Bills n'ont pas essayé de changer ça. Puis c'est pour ça que l'équipe a du succès depuis qu'ils l'ont repêché. Donc, c'est vraiment là qu'il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on est prêt à vouloir s'adapter à notre nouveau corps arrière ou on va tenter de le changer? Puis c'est là que je suis capable de comprendre pourquoi des gens voient Jaden Daniels un petit peu plus loin dans leur classement. Il me rappelle énormément Lamar Jackson. Puis, s'il était à la bonne place au bon moment, ça pourrait faire de belles choses.
Ouais, c'est vrai. Ça se peut qu'il soit système... dependent, là, tu sais, qu'il faut que le système là, réussisse à l'accoter. Mais pourtant, PFF l'ont là, dans leur petite voyons, les listes de symboles. Là, ils mettent des symboles à côté du nom des joueurs. Puis souvent, à côté de certains joueurs, on va voir une pièce de puzzle qui veut dire que ben ce joueur-là peut être système dépendant du système, là, tu sais, fité dans un système particulier. Puis Daniels,
c'est quand même drôle parce qu'il n'y a aucun QB qui a ça. Puis pourtant, s'il y a une position qui est importante avec le système, c'est...
Ouais. Effectivement. Puis
il y en a... Faf, vraiment... on n'en parlera pas parce que tu ne l'as pas rajouté dans ta liste. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon top 5. On pense quoi de J.J. McCarthy? Parce que c'est comme le gars qui est sur la plus grosse vague en ce moment. Tout le monde parle de lui. On parle de lui potentiellement d'un choix top 3. Moi, j'embarque pas du tout dans cette vague-là. Je te laisse en discuter parce qu'on en a parlé durant la saison. Je me rappelle, on a analysé son jeu après les matchs contre Penn State, contre Ohio State, puis on se disait, ouais, c'est des belles victoires pour les Wolverines, mais J.J. McCarthy n'a rien fait. On parle de matchs de moins de 200 verges dans les deux cas. T'en penses quoi, Faf?
Ben, c'est sûr que statistiquement, J.J. McCarthy n'est pas sexy. Ça, c'est sûr qu'il est moins sexy que les gars que je nommais tantôt comme Radler. T'sais, sa meilleure saison cette année, en termes de verges, c'est 2991. Tu me diras, c'est très proche de 3000, ce qui est vrai, mais c'est quand même pas un cap qu'il a réussi à atteindre, considérant que Daniels il a déjà lancé 4500 verges dans une saison. T'sais. Fait qu'on voit que sa productivité à lui va pas passer par son bras. Par contre, il y a un taux de complétion de 72%. Et cette année, il a quand même gagné un championnat national. Qu'est-ce que ça me laisse dire sur J.J. McCarthy? C'est que même s'il ne performe pas statistiquement dans un match, il va trouver le moyen de gagner ce match-là. C'est même chose, j'en parlais tantôt, un peu le ratio de passes de toucher par interception. Bien, cette année, 22-4. L'année passée, 22-5. Donc, on voit qu'il est assez constant à ce niveau-là. Protège lui aussi quand même assez bien le ballon. Mais le 72.3, je te dirais qu'au niveau de pourcentage de complétion, c'est ça qui, pour moi, est fichtrement intéressant. Là. C'est vraiment pour une équipe de la NFL. Tu dis, je veux un petit gars qui va être capable d'exécuter le plan de match, qui va pas trop s'en mettre ses épaules. Puis on sait qu'il est capable de le faire parce qu'il a donné le ballon à Corum puis à l'autre running back toute l'année. Fait il est capable de manager une game, il est capable de bien distribuer le ballon sans se mettre en danger lui directement, ni physiquement, ni avec les passes qu'il va lancer. Donc, ça, c'est ce que je vois. Là, le monde qui commence à le comparer à Brady, le monde qui commence à le hyper puis le over-hyper, ça, je pense que c'est du media hype. Puis ça, c'est désagréable parce que ça va, au final, dénaturer le joueur qui est vraiment. T'sais. Fait que là, il y a peut-être une équipe qui va se dire « Fuck, il y a un hype dessus, on va rusher pour aller le chercher. » Puis là, il va se retrouver dans des situations qu'on parlait tantôt. Pas le bon système, pas la bonne façon de s'en occuper, pas la bonne façon de le gérer, de le développer. Mm-hmm. Fait que ce hype-là, pour moi, je le vois pas comme bénéfique pour lui. Je pense qu'il y a un bon frame, il y a un joueur en dessous qui peut être pertinent à repêcher. Sauf que ce hype-là va l'amener à une position trop élevée, avec des attentes complètement démesurées, puis peut-être un système qui ne s'adapte pas à lui, puis là, ben, ça va tout s'écrouler à ce moment-là. T'sais.
J'aime l'analyse, Faf.
C'est un peu ça. Puis effectivement, je ne l'ai pas nécessairement dans mon top 5 parce que justement, on en parle trop présentement. Il y en a deux autres dans mon top 5, moi, de mon côté, que je voulais te parler ou que je voulais parler, en fait, aux auditeurs. Dans un premier temps, c'est Joe Milton. Joe Milton, de third, le QB de Tennessee. Cette année, meilleure saison en carrière. Puis Joe Milton, on se rappellera peut-être, historiquement, il était avec Michigan. Puis en 2020, là, à un certain moment, le QB room de Michigan n'avait pas de Christy de bon sens. Là. Il y avait genre 64 corps arrière qui ont joué une game un moment donné. Genre, il y avait 17 passeurs qui avaient des statistiques une game. C'était une game pré-saison, évidemment. Mais en 2020, il y a eu la meilleure saison qu'il avait connue jusqu'à date à Michigan. Mais tu sais, il n'a vraiment pas joué beaucoup à ce moment-là. Il avait connu 1000 verges. Là, a transféré à Tennessee. Il n'était même pas le premier. Il mangeait son pain noir. A réussi à tomber le premier. En 2023. Écoute, 2800 verges, 20 passes de toucher, 5 interceptions. Tu sais que je suis un fervent statistique, mais ce qui m'impressionne le plus avec Joe Milton, c'est que c'est un grand bonhomme de 6 pieds 5, 235 livres. Donc, il a, oui, lancé 20 passes de toucher, mais il a aussi couru 7 fois pour des touchés cette année. Donc, dans un red zone, un gros QB comme ça, oui, il peut te rouler des QB sneak ou des touch-push ou n'importe quoi, mais il va être capable aussi de soit bien distribuer le ballon, avec comme peut le démontrer ses 20 passes de toucher, ou porter lui-même le ballon pour certains touchés. Donc, tu sais, j'ai pas de comparatif pour ce joueur-là. C'est juste que, même principe que je parlais tantôt, c'est un high value sur un joueur qui, statistiquement, là, on peut même le voir dans le board de PFF. Je vais juste le retrouver pour être capable de descendre. Milton, il était vu comme un top 4, 5e round, un top 160e pour la NFL, pour le repêchage de la NFL. Je trouve ça vraiment sévère pour ce joueur-là. Pas nécessairement sévère pour le joueur. À la limite, je suis content parce qu'un peu ce que j'expliquais tantôt, il ne sera pas drafté trop haut puis il va avoir le temps de se développer s'il a à se développer. Mais je pense qu'une équipe qui met la main sur lui en 5e round, admettons, même comme Rattler ou Travis, il y a un high value pour la valeur du pick là, qui a dépensé sur lui.
Le problème majeur, selon moi, que j'ai avec Joe Milton, c'est que c'est le genre de gars que de sa ligne de 10 peut probablement compléter une passe de toucher, mais peut aussi la lancer dans la troisième rangée.
Il n'est pas très précis.
Derrière lui. Donc, sa précision, c'est une grosse lacune pour lui. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il est aussi loin. Je pense que ce gars-là a un petit peu plus de précision. Je ne sais pas si ça s'enseigne. J'ai l'impression que non. Mais si ça peut s'enseigner, c'est un gars qu'on verrait beaucoup plus haut.
Ouais, les précisions s'enseignent plus que la grandeur, mettons, puis la force brute. Ouais. Là, ça s'enseigne vraiment pas. Fait que je pense que peut-être que oui, mais je sais pas vraiment. De ton côté, un peu un choix out of the box, j'aimerais que tu me parles de ton top 5. Je 100% honnête, j'ai aucune idée c'est qui, j'ai pas d'intel sur ce gars-là. Puis PFF n'ont pas l'air d'accord avec moi, mais ils ont l'air d'accord avec toi quand même, parce qu'ils ne mettent pas si boxé. C'est qui ça, M. Pratt?
Michael Pratt, le carrière des Green Wave de Tulane. Un grand gaillard de 6'3", 220 livres. Encore une fois ici, Faf, comme j'ai dit en introduction de podcast, j'y vais 100% avec ce que j'ai vu de lui lors des deux dernières saisons. On se rappellera Tulane, une saison exceptionnelle en 2022, alors qu'on a battu USC dans le Fiesta Bowl, si je me rappelle bien. Michael Pratt a fait de belles choses tout au long de son passage. C'est un gars qui distribue bien le ballon. C'est un, comme quand j'ai dit, à 6'3", tu l'as dit tantôt, ça ne s'enseigne pas. J'aime ce que je vois de lui. Je vois pas en lui un gars qui va sortir en première ronde. Je pense que PFF est d'accord aussi avec ça. Potentiellement un gars qui sort en deuxième, troisième ronde, mais qui devient un deuxième QB hyper intéressant dès sa saison recrue. Puis on l'a vu l'an dernier, puis j'espère que c'est une tendance qui va être à la baisse en 2024. En 2023, il y a eu extrêmement beaucoup de blessures au niveau des carrières dans la NFL. Aller chercher une police d'assurance comme Michael Pratt, comme deuxième carrière, ça peut devenir très payant. Je pense que, comme que j'ai dit, c'est un gars qui distribue bien le ballon, c'est un gars qui ne fait pas d'erreurs niaiseuses. J'ai juste aimé ce que j'ai vu de Michael Pratt en carrière, Faf.
Non, mais c'est un bon point. Puis ton autre boy, Bo Nix, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont... qui ont l'air d'être hype sur lui. On dirait que la conversation est juste au neutre, est juste comme, on parle beaucoup de William, May, Daniel, McCarty, toute l'équipe, mais Bo Nix, puis Michael P. Nix aussi, il passe un peu sous silence, là. Mais toi, Bo Nix, tu l'avais mis dans ton top 5.
Ouais, dans le cas, je vais parler rapidement de Michael P. Nix. Le gars m'a juste déçu dans les gros moments. Je pense aux deux matchs contre Oregon, je pense à la finale nationale contre Michigan. Contre des bonnes défensives, c'était juste difficile à voir, même dire atroce. Puis aussi le fait que c'est un carrière qui est gaucher. Désolé les gauchers dans la pièce, j'ai juste de la misère avec un QB gaucher. Pour ce qui est de Bo Nix, écoute, c'est un gars que je défends depuis quoi, 2018, 2019, je ne me rappelle plus, ça fait à peu près 8 ans qu'il est dans la NCAA. Tout simplement montrer des belles choses, c'est un winner, c'est un gars qui semble être un bon leader dans une équipe. Un peu même son cloche que Michael Pratt. Là, on ne parle pas ici là, d'un gars qui va être repêché en première ronde puis qui va changer le visage d'une équipe immédiatement. Par contre, si j'étais une équipe qui est à la recherche d'un bon second corps arrière dans mon équipe, s'il y a un risque que mon corps arrière partant se blesse, je prends l'exemple des Colts d'Indianapolis qui l'an passé avaient repêché Richardson. Ce gars-là est prône à avoir des blessures, mais tu vas te chercher un deuxième carrière qui est capable de t'apporter une stabilité, qui est capable de t'apporter de belles choses. Puis je pense que Bo Nix t'apporte ça. Je pense que c'est un gars qui, on l'a vu, malgré le fait qu'il a joué pendant 18 saisons avec Auburn puis Oregon, a plusieurs records de NCAA, lance très bien le ballon, prend pas de décision niaiseuse. Il est capable d'aller chercher le spark dans son équipe, de faire des jeux clutch au bon moment. Puis c'est des choses que j'ai aimé de lui là, tout au long de sa carrière. Puis on le sait, ça fait quoi, 6 ans que je le défends sur le podcast? Il est à peu près aussi vieux que le podcast.
Oui, c'est ça. Non, ça fait longtemps que tu le défends. Je suis quand même d'accord. Avec la saison qu'il a connue en fait cette année, en plus, là, c'était assez succulent à ce niveau-là. Donc, je peux pas être en désaccord. C'est un bon joueur. Il est capable de faire des belles choses à des bons moments. Il faut juste qu'il soit capable à start de capitaliser là, sur ses opportunités. Le dernier que je veux vous parler, qui vient du champ gauche un petit peu aussi, sauf qu'au combine, il a pas passé sous silence, surtout pas pour les jeunes demoiselles. Je vais vous parler de Sam Hartman, le QB de Notre-Dame. Un bonhomme de 6 pieds 1, 210 livres, mâchoire carrée, qui a l'air d'un demi-dieu. Il court avec ses cheveux dans le vent, une grosse barbe. Écoute, c'est pas pour les pissous. Hartman, son upside, en fait, que moi je lui trouve, c'est que c'est un senior qui a joué pendant 6 saisons dans la NCAA. Ça fait 5 saisons. Il a été pendant 5 saisons avec Wake Forest. Il a mené son équipe à des saisons de 2000, 4000, 3000 verges. 3700 verges, en fait. Puis, il est transféré à Notre-Dame. À Notre-Dame, évidemment que la confrontation, le niveau de jeu, en fait, l'opposition qui a fait face, était beaucoup plus élevé qu'à Wake Forest. Et même s'il a été un petit peu moins performant, a quand même réussi à bien performer pour son équipe. Donc, pour moi, c'est des signes encourageants dans le sens où le gars, il est mature. Le gars, il a roulé sa bosse. Il a beaucoup de matchs dans le corps. Donc, évidemment, il est très high en game experience. Puis, même contre de l'opposition un peu plus difficile, il a réussi à garder des chiffres assez intéressants. C'est pas des chiffres qui sont parfaits. Ça reste quand même un 63,5% de taux de complétion. C'est un peu faible. 2700 verges cette année, un peu faible. Ratio 24 touchdowns, 8 interceptions. C'est correct. T'sais, c'est pas terrible, mais c'est pas le mieux. Mais je pense que Sam Hartman peut être un bon deuxième QB dans une équipe. Surtout pour vendre des chandails parce qu'il est cute en maudit. Bon, voilà. C'est pas un coming out, by the way. Il y avait une belle question sur Twitter à propos des QB. On en a parlé un petit peu tantôt, mais Pierre Roibon qui dit: comment vous expliquez que McCarthy monte à ce point dans la hiérarchie des QB pour la draft? Merci, bonne émission. Merci Pierre, c'est gentil. Ben, c'est un peu ce qu'on expliquait tantôt. Là. J'ai expliqué pourquoi moi je l'appréciais. Puis j'ai expliqué pourquoi cet engouement-là soudain des médias, ben ça peut peut-être y faire plus mal que pas y faire mal, que de bien. Puis toi, Ben Wallet, t'as complètement des red flags sur lui, là, tu l'apprécies vraiment pas du tout. Fait.
C'est pas que je l'apprécie pas, c'est juste le fait que tantôt on était sur notre chat privé avec Dion, puis je dis à Dion que selon moi, c'est pas un talent de première ronde, puis que je comprends pas le hype, puis il dit ouais, mais tout le monde, même Vegas, le voit comme partir dans le top 10, top 15. Il dit va miser de l'argent qui va sortir en deuxième ronde, puis je pouvais même pas trouver rien qui me laissait miser un vieux 5$ en papier qui était pour sortir en deuxième ronde. Puis c'est là que j'ai un problème. Le gars a montré quand même de belles choses. Puis comme tu as dit, il a remporté un championnat national. Mais au final, d'un match important, il était tout simplement absent. Puis je pense que c'est tout simplement parce que la saison du repêchage, c'est la saison des menteries. Il y a des équipes qui savent que, OK, on a un GM, on a une équipe de scouts qui sont un peu plus jeunes, qui ont moins d'expérience, puis ils sont devant nous. Fait que si on est capable de créer un hype, puis que cette équipe-là décide de le repêcher, bon, ben nous qui veulent repêcher Jaden Daniels ou Drake May en 4e, 5e, 6e rang, parce qu'il y a une équipe qui s'est avancée pour aller chercher un gars comme J.J. McCarthy, bon, on va être capable de le faire. Donc, moi, je pense que c'est la saison des menteries. Je vais aller jusqu'à dire que le GM qui va repêcher J.J. McCarthy dans le top 10 cette année, n'aura plus de job dans 3 ans.
On va passer à l'histoire pour être à l'esti de boss, toi.
Puis, exactement, il va être... Encore là, Faf, on se trompe à chaque année, puis les QB, c'est une des positions que...
Ouais, mais là, je me suis pas fait chier à faire fucking 25 heures de tape sur un gars qui va aller se péter ailleurs dans la NFL. C'est là que je suis content de faire les comptes.
Exact. C'est pas notre job. On n'est pas payé pour le faire. Mais de ce que j'ai vu au niveau du college football, c'est pas un gars qui mettait... Quand que J.J. McCarthy prenait d'assaut le terrain puis il était en charge de l'attaque de Michigan, j'étais pas assis au bout de mon divan à me dire hey, « ça va être excitant, qu'est-ce qui va se passer? » Il remettait le ballon à Edwards. Il remettait le ballon
à
Blake Corum. Puis il lançait à peu près pas le ballon. Puis on sera pas de cachette, là. Michigan, malgré le fait qu'ils ont remporté un championnat national cette année, qu'ils ont fait les séries les deux dernières années d'avant, leur horaire de saison régulière les deux dernières années, c'était pauvre, là. À l'exception du match contre Penn State puis du match contre Ohio State, à chaque année, Michigan n'affronterait pas de grosses défensives, puis J.J. McCarthy n'excellait pas. Donc, je continue de penser que c'est pas un talent de première ronde, puis qu'on continue de mentir. Selon moi, il n'est pas meilleur que Will Levis qui a sorti l'an dernier en deuxième ronde avec les
Stats Tennessee. Mais il ne met pas de la maillot dans son café. Bon, on va continuer.
Pour l'instant.
Pour le moment. On va continuer ça avec la position, en fait, qui, à mon sens, à moi, est la plus stackée du repêchage. Je vais vous parler des wide receivers, puis je vais vous montrer un peu ce que je veux dire à propos de ça. Vous allez voir, je vais repartager le fameux tableau. Pour les gens de la maison, je vais le commenter là, à la maison, les gens de l'audio. Dans le fond, là, si on regarde, là, le tableau il est splitté de façon là, bon, élite, première ronde, deuxième ronde, toute l'équipe. On voit que dans les QB, c'est bien réparti. Il y a deux joueurs élites, il y a trois joueurs comme étant première, deuxième ronde. Après ça, un joueur, deuxième ronde. Après ça, deux joueurs, deuxième, troisième ronde. Si on parle des tight ends, bien là, il y a un joueur élite, un joueur deuxième, puis après ça, ça drop à côté. Si on parle des running backs, on n'en parle même pas des running backs. En fait, le plus high, c'est Brooks. Brooks en deuxième ronde avec un red flag. Après ça, ça commence minimalement en troisième ronde. Puis là, on s'attarde aux receveurs ici. Il y a deux joueurs élites, un joueur de première ronde suivant ça, donc un top 20, Ensuite de ça, il y a plusieurs joueurs considérés comme étant dans la première et la deuxième ronde. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. 4 joueurs première, deuxième. Après ça, il y a 4 joueurs deuxième. Après ça, il y a une panoplie de joueurs.
En gros, de ce que je vois, c'est qu'on pense qu'il y en a 10 qui sortent dans le top 60. Là, ce qui est le 1/6 du repêchage va être un receveur, ouais, selon
Pierre. Ça peut vraiment être ça. Donc, même principe qu'on a fait avec les QB. On va vous parler des gros joueurs que vous entendez déjà parler, mais j'ai essayé d'y aller un petit peu plus long shot puis aller chercher des joueurs un peu plus obscurs dans ce fameux top-là.
Donc c'est comme ton regarder... segment out of the box sans être out of the box. J'aime ça. On devrait partir les picks sax gars.
Ben en fait, c'est ce que tu sais. Bon, on va y aller avec toi. Parle-moi de Marvin Harrison Jr. Puis, en tout respect pour l'analyse que t'es puis le passionné que t'es, dis-moi quelque chose que j'ai pas déjà entendu. Dis-moi que c'est pas lui qui sort premier. Dis-moi, tu sais. On le sait tous que c'est ça qui va se passer. Il a été considéré au Heisman. Rendu là, parle-moi-en du mieux que tu peux. Qu'est-ce qui te met hype sur ce gars-là?
Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ce gars-là, depuis qu'il a mis les pieds à Ohio State, est un stud, est une superstar. Il a tout fait ce qu'il pouvait pour essayer d'aider son équipe. Même l'an dernier, avec un corps arrière médiocre, il a été en mesure de mettre des statistiques incroyables au tableau. Le gars... Je vais faire la citation d'un grand esprit qu'on connaît sous le pseudonyme de Dion. C'est pas le gars le plus vite, mais crissez-moi patience parce qu'en un contre un, il peut battre n'importe qui, puis il va sauter plus haut, puis il a des meilleures mains que tout le monde. Puis c'est un peu ça, Marvin Harrison. Il y a plusieurs analystes, par contre, Faf, depuis le début du processus du repêchage, qui, je sais pas s'ils le font pour être des trolls ou s'ils le font parce que c'est leur opinion, qui mettent pas Marvin Harrison premier dans leur classement. Puis je pense que c'est ça qui a fâché des gens comme Dion. Honnêtement, ce gars-là, je vois pas de défaut comme prospect, honnêtement, je serais extrêmement surpris qu'ils ne connaissent pas une carrière NFL Pro Bowl à plusieurs reprises. Je ne veux pas dire Hall of Fame parce que c'est trop tôt, mais en termes de talent, le gars a toutes les aptitudes pour avoir du succès. Puis là, ben, avec la valse des corps arrière qui devraient partir 1, 2, 3, ben là, tu as une situation qui est intéressante parce que tu as les Cards d'Arizona qui repêchent 3e. On semble avoir dit à Kyler Murray, tu es notre QB du futur. Tu lui donnes un arbre comme Marvin Harrison Jr. Ça commence à être intéressant parce que Kyler Murray, malgré le fait qu'on a des doutes sur son amour du football puis sa capacité à lire un plan de jeu ou un livre de jeu, je devrais dire, tu rajoutes Marvin Harrison à son arsenal d'options. Wow, ça commence à être intéressant. Puis point de vue fantasy football, ça pourrait être beaucoup de points. Donc, wow, if you know, you know.
Yes. Arizona repêche 4e, que Mathieu dit. Moi, le receveur que je veux vous parler, selon le top de PFF, se retrouve dans ce qu'on considérait être un joueur de deuxième ronde du Crimson Tide, pardon, de l'Alabama, Jermaine Burton. Je vais vous parler de Burton parce que cette année, il a connu sa meilleure saison en carrière, mais la statistique qui a le plus accroché mon œil, c'est un ancien de Georgia, by the way, transféré à Alabama. Il a toujours connu des saisons de 400, 500, 700, puis là, 800 verges. Par contre, la chose intéressante, c'est que la moyenne des catchs qu'il fait, c'est pour 20,5 verges. Donc, c'est des très longs catchs. C'est des catchs qui sont excessivement payants pour son équipe. Donc, c'est ce que j'appelle un clutch player. Dans un moment important, il va faire un gros jeu, il va faire un gros gain. Ça va être pour des plusieurs. Puis après ça, je me suis demandé, c'était-tu juste cette année? C'est-tu à cause du système ou whatever? L'année passée, c'était 17 verges par attrapé. Puis l'autre année d'avant, à Georgia, c'était 19 verges. Fait que c'est un gars qui est utilisé pour des zones un peu plus profondes. Donc, il va aller chercher des premiers jeux importants. Donc, ça va être un joueur qui va être important pour son équipe. C'est ça surtout que je veux dire. Un gars de 6 pieds, 194 livres. Donc, pas la plus grosse des shapes, mais toujours bien placé. Puis, c'est un gars qui a eu des super bonnes cotes au repêchage aussi. Là. Il a eu un RSA de plus que 9. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air intelligent.
Le RSA, Faf, c'est stats athlétiques. Donc, il a tout pété au combine.
Ben, c'est ça. Fait que, même si c'est pas un freak de la nature côté physique, c'est un gars que j'aime parce que il a été payant. T'sais, il a été le meilleur pour Bama cette année. Là. Ça a été le meilleur receveur pour Bama cette année. Dans une offensive avec un Joe Milrow qui était coussi-coussa, puis des bonnes semaines, puis des moins bonnes semaines. Mais quand c'était le temps d'avoir un gros jeu, c'était lui qui était là. Puis moi, j'aime ça. Si tu me dis tantôt dans ton segment quand tu me parlais de Marvin Harrison Jr., tu me disais que certains analystes, trolls ou pas, ne le mettaient pas premier dans la classe, dans leur classe de receveur. Qui mettait premier?
Ben, dans la majorité des cas, non seulement il mettait premier, mais il en mettait un autre deuxième. Puis c'est là que je voulais parler des deux receveurs de LSU. T'as Malik Nabers puis Brian Thomas Jr. Puis honnêtement, je vais faire une comparaison qui est boiteuse parce que c'est pas le cas, mais ça me rappelle un peu, même s'il n'avait pas été repêché la même année, Justin Jefferson puis Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase avait extrêmement de hype. Il est sorti, je me rappelle bien, top 5, top 6 avec les Bengals. Puis dans le cas de Justin Jefferson, c'est un gars qui est sorti un petit peu plus loin. On parle d'un gars qui est sorti vers le 17e, 18e rang avec les Vikings du Minnesota. Puis 3-4 ans plus tard, je pense que si on avait à refaire le repêchage ou si on avait à refaire les deux repêchages puis les analyses pré-repêchage, bien, tout le monde prendrait probablement Justin Jefferson avant Ja'Marr Chase. Puis c'est, je ne dis pas ça pour envoyer une flèche à Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, excellent receveur de passe, mais j'ai un peu ce feeling-là avec Malik Nabers puis Brian Thomas. Malik Nabers, c'est le plus petit gars. On parle d'un gars de 6 pieds, 200 livres, beaucoup plus explosif, qui va aller chercher les longs attrapés avec ses jambes. Dans le cas de Brian Thomas, on parle d'un monstre de 6 pieds 4, 205 livres. Il n'a pas peur d'aller au centre du terrain. Il n'a pas peur de se mouiller les pieds ou de salir le nez dans le milieu de la défensive adverse. Puis, il y a certaines offensives, il y a certaines équipes qui vont aimer plus ça que Malik Nabers. Donc, dans le cas de Malik Nabers, je pense que l'une des raisons pourquoi que certains analystes le mettent devant Marvin Harrison, c'est sa rapidité. C'est un gars qui est plus rapide que Marvin Harrison. Dans le cas de Brian Thomas, on parle d'un gars qui est beaucoup plus compact, un gars qui est beaucoup plus massif, puis qui amène cette, cette versatilité-là, de ne pas avoir peur de jouer dans le trafic, puis d'y aller pour le contact. Donc, je ne serais pas surpris que l'ordre soit Marvin Harrison, Malik Nabers, d'autres receveurs, Brian Thomas, puis qu'on le voit sur Instagram tout le temps. Ah, si on avait à refaire lors du repêchage de 2024, on est rendu en 2028, que Brian Thomas soit le meilleur receveur entre les deux. Donc, la comparaison avec Ja'Marr Chase et Justin Jefferson, peut-être boiteuse, mais ces deux prospects là, qui sont hyper intéressants, puis je pense qu'encore là, ça va être intriguant de voir quelle équipe qui les repêche.
All right. Là, on arrive au segment débat du podcast parce que moi, dans mon top 5 de joueurs, je veux parler de Romy Odunze de Washington, receveur de Washington. Puis toi, tu as mis une étoile à côté dans ta liste en disant « pourrait être un top 5, mais j'aime pas ces match-ups ». Puis je veux qu'on parle de ça parce que je suis pas tant d'accord avec toi. C'est un gars qui a... Ben, premièrement, statistiquement parlant, là, sa bio, 6 pieds 3, 215 livres, il a progressé tout au courant de sa carrière, il a une stabilité depuis les deux dernières années, c'est un gars de 1600 verges cette année, 13 attrapés pour des touchés. Je veux dire, ce gars-là, il est real, il est for real pour moi, puis toi, tu dis qu'il n'a pas affronté des assez bonnes défensives.
Ben, c'est surtout que la Pac-12, en général, c'est pas une... division, rest in peace la Pac-12, c'était pas une division qui...
Cette année, c'était une crise de grosse division, là.
C'était une grosse division,
mais...
Il a bloomé dans une grosse année, je suis d'accord avec ça. Le seul problème que j'ai, c'est que je regarde un match contre... Puis encore une fois, j'y vais avec ce que j'ai vu. Puis est-ce qu'on peut blâmer lui plus qu'on peut, blâmer son corps arrière? De ce que j'ai vu de lui, puis de ce que j'ai en mémoire dans le championnat national contre... Michigan, on dirait qu'il était jamais bien placé. On dirait qu'il n'était pas capable de se démarquer. Puis Michigan était reconnu pour avoir potentiellement la meilleure défensive au pays avec Georgia. Donc, est-ce que je mets des red flags où il n'y en a pas? Bon, on dirait que j'ai un feeling interne qui me dit que ce gars-là n'aura pas une progression très intéressante une fois dans la NFL. J'espère que je me trompe. J'espère que tous ces gars-là vont avoir du succès. Mais on dirait que j'ai un mauvais goût dans ma bouche. Je me rappelle du championnat national contre Michigan. Puis, c'est de là que viennent mes doutes.
OK, je peux comprendre, mais comme...
Ben encore le fait, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'est plus sa faute lui que Michael Penix? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? C'est un peu ça.
Ben, selon le classement de PFF, là, pour y revenir, eux autres le voient comme étant un choix de première ronde. Donc, il n'est pas dans l'élite, mais c'est un top 20. Donc, il sort première ronde, c'est sûr. Il a été un gros tester aussi là, au combine. Donc, il a eu un RSA de 9 points et plus. Donc, physiologiquement, il est là. Physiquement, il est là. Là, t'sais, il a les attributs, puis il a les capacités physiques. Rendu là, je pense que ses upsides sont tellement plus importants que son potentiel de boss que je peux pas me résigner à pas le choisir là, dans un top 10, mettons, au prochain repêchage. Là, t'sais. Fait que je voulais en parler parce que quand j'ai vu ton point, j'étais comme... Ben, la Pac-12 était stackée cette année. Il a joué deux fois contre les Ducks où c'était des estimes de match où il a tout pété. Il a eu beaucoup de bons flashs cette année pour me convaincre sur le terrain que c'est un joueur important pour une équipe de la NFL.
Puis Faf, je veux pas t'interrompre, mais
vas-y.
J'ai fait naturellement tomber Romy Odunze. Donc quand tu le fais tomber de ton top 5, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne sa place.
Ouais,
dans mon cas, je vais avec un gars qui ne semble pas aimé par beaucoup de gens. Je vais avec Xavier Worthy de Texas parce que j'aime sa versatilité. Le gars peut changer l'allure d'un match sur les unités spéciales, que ce soit un punt ou un kick-off return. Puis on le sait, la NFL l'a annoncé la semaine dernière, on change les règlements de kick-off return. Puis il y a des bonnes chances qu'on voit des touchés enfin. Après 10 ans d'absence, il va peut-être avoir un touché sur un kick-off return. Puis quand tu repêches un gars comme Xavier Worthy, qui est peut-être pas naturellement un receveur numéro 1 dans une équipe, mais qui devient un très bon deuxième receveur, puis une menace sur les unités spéciales, J'aime sa versatilité. Je pense qu'il amène un aspect qui beaucoup de gens ont négligé dans leur classement, mais avec les changements qu'on voit dans la NFL, je suis obligé de voir un gars comme Xavier Worthy plus haut que beaucoup de gens.
Ben, c'est weird parce que le board de PFF, justement, le place top 80, donc deuxième, troisième ronde, ils disent que c'est un gars de système. Donc, il faudrait qu'il soit dans le bon système pour pouvoir bien performer. Ça a été un testeur exceptionnel, lui aussi, au repêchage. Présentement, Présentement, il est downgradé, mais PFF semble hype sur eux. Mais ils le mettent quand même plus bas parce que la tendance populaire le met un peu plus bas. J'étais quand même content que tu parles de Worthy parce que effectivement je pense que c'est un bon prospect. Et moi, je voulais apporter en fait à la discussion son acolyte Mitchell. Qui est un autre receveur de Texas. C'est un transfert de Georgia lui aussi. Première saison avec Texas. C'est un gars junior en fait. Il y a juste trois années en carrière dans l'arrière de la cravate. 55 catch cette année pour 845 verges. Donc, nous, on n'a pas franchi la barre des 1000 verges, mais 11 passes de toucher. Donc, c'est un joueur qui a produit énormément de touchés pour les Longhorns cette année. Puis, je trouve que l'attention était beaucoup distribuée vers... était beaucoup enlignée vers Worthy, qui, c'est vrai qu'il est bon, mais je pense que Mitchell rendait Worthy meilleur parce que c'était quand même un threat qu'il fallait s'occuper. Il fallait qu'on regarde Mitchell pour s'assurer qu'il se passe pas de quoi. Puis, ben, PFF sont d'accord aussi parce qu'ils le mettent en première, deuxième ronde dans un top 40. Donc, moi, c'est lui... Souvent, pendant les games que j'ai regardé de Texas, c'était lui, l'attention m'amenait sur lui. Puis c'était Worthy qui finissait par faire le gros catch parce que je pense que la défensive aussi, j'ai réagi de la même façon. Donc, moi, dans mon top 5, en tout cas, là, c'est sûr que Adonai Mitchell, 6 pieds 3, 190 livres, il y a eu, comme je disais, 11 TD, puis Worthy, il y en a juste eu 5. Fait que, tu sais, pour moi, le vrai go-to guy, c'était probablement lui, tu sais.
Ouais, effectivement, Mitchell, c'est une grosse cible dans la zone début, puis je pense qu'on l'a vu, Quinn Ewers l'utilisait à maintes et maintes reprises, dans la zone rouge, dans le red zone. Mais j'aime la manière que tu l'as apporté. Puis, est-ce que je mets Worthy trop haut dans mon classement en le mettant troisième? Fort probablement, mais comme que je dis, j'aime sa versatilité. Puis, faut pas négliger un receveur 2, surtout une équipe de la NFL qui repêche plus loin en première, deuxième ronde, puis qui ont déjà un stud comme numéro 1. Si tu vas chercher un gars comme Worthy, tu changes, selon moi, de façon majeure la dynamique de ton offensive.
Mais tu sais, l'année passée, c'est ça. Worthy, il y a eu beaucoup plus de volume. Il y a eu 75 catchs pour 1000 verges, 1015 verges. Mitchell, 55 catchs pour 845 verges. Donc, en moyenne, il est un peu meilleur, Mitchell. Là, son average de catch, mais c'est vraiment ses 11 touchés versus les 5 de Worthy, moi, qui m'ont fait flasher sur lui. Oui, il est hype pour le... Dans certains boards à cause de ses tests et ces choses-là, mais sa productivité en red zone, pour moi, a été vraiment assez exceptionnelle là, cette année. Mm-hmm. Dans ton top 5, un joueur qui m'intéresse un peu, c'est ton top, c'est ton cinquième, justement. Là, peux-tu me le présenter? Je ne le connaissais pas avant que tu le nommes.
OK. Écoute, Keon Coleman, on l'a vu, personnellement, je l'ai vu à maintes et maintes reprises en regardant plusieurs matchs des Seminoles de Florida State la saison dernière. On parle d'un gros bonhomme, on parle d'un gars de 6 pieds 4, 215 livres. De mémoire, c'est un gars qui avait transféré de Michigan State à Florida State. Puis, dès la semaine 1 contre LSU, les Tigers de LSU se l'ont fait mettre en plein visage que Keon Coleman était à prendre au sérieux. Comme que je viens de dire, du haut de ses 6 pieds 4, c'est une très grosse cible. Il a fait la pluie et le beau temps avec Jordan Travis. Je pense encore ici que Coleman, c'est un receveur de passe qui va commencer sa carrière comme potentiellement deuxième violon dans une équipe, puis éventuellement va devenir comme la grosse cible, le receveur numéro un. C'est un mutant, selon moi. C'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné en 2023 en général. Puis c'est pour ça que je suis obligé de le mettre dans mon top 5. Puis par curiosité, PFF le met.
Man, ils sont pas down sur lui. Là. C'est ça que je voulais te montrer. C'est, j'allais chercher pendant que tu parlais. Là. PFF, ils mettent en fait.
60.
Ils mettent, attends un peu, je vais le mettre ici, là, dans, ouais, top 60 en deuxième ronde. Ils disent qu'ils sont pas down dessus, puis sont frost. Là, fait que board movement, il a descendu dans le board, puis eux, ils disent que leur sentiment est à frisquet, là, sont frileux à propos de Coleman. Ça serait quoi? Il n'y a pas de red flag majeur, mais ils sont juste cold sur lui, sont froids sur lui. T'aurais-tu une explication à ça? Y a-tu une raison pourquoi?
Je suis pas, non, malheureusement, je suis pas dans le cerveau de.
Non, mais
il est
pas blessé, il a pas connu sa blonde.
Parce que je cherche, non. Parce que je cherche, il n'y a pas de scandale. J'ai pas vu passer de nouvelles majeures sur lui. Naturellement, les podcasts de college football que j'écoute se concentrent plus ou moins sur le repêchage puis les joueurs qui quittent. Ouais. Mais non, écoute, je trouve ça assez surprenant parce que c'est un joueur qui, selon moi, a apporté une. Il a vraiment changé le visage de l'offensive de Florida State en 2023. Puis je pense que sans lui, les Seminoles n'auraient pas eu le même succès qu'ils ont eu tout au long de l'année. Naturellement, tu retrouvais de l'autre côté du terrain Jordan Travis qui était aussi, où j'oublie son nom, les Seminoles avaient un receveur de passe de 6 pieds 7 qui était aussi un monstre. Mais Keon Coleman, d'excellentes mains. Moi, en ce moment, je regarde un autre big board. C'était big board-là, le top, le classe 45e. Puis j'ai tendance à être d'accord là, peut-être avec un gars qu'on voit partir en milieu de deuxième ronde qui pourrait surprendre dès 2024.
All right. J'essaie de trouver Yu. Je le trouve même pas, man. J'ai-tu fait une erreur ou quoi? Mais en tout cas, moi, le dernier receveur que je veux vous parler, c'est un receveur de l'équipe championne du Natty cette année. C'est Roman Wilson. Puis Roman Wilson, c'est le receveur de passe le plus productif de Michigan cette saison. Puis avec le QB qu'ils ont eu, c'est pas peu dire. Parce que le QB, c'est pas le QB qui a été le plus productif de son côté non plus. Donc, meilleur receveur au niveau, justement, des verges par la passe. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'en passe de toucher cette année, les Wolverines ont marqué 24 touchés par la passe, puis Roman Wilson a été responsable de 12 de ces touchés-là. Donc, la moitié des passes de toucher, c'est lui qui les a pognés pour les Michigan. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Tu sais, il y avait le meilleur backfield au pays, là, fait qu'il y avait toutes les chances que ça soit pas une passe sur les jeux. Chaque fois qu'il a été sollicité, il semble avoir quand même eu des bonnes statistiques au niveau du pourcentage de réception. Donc, pour moi, c'est un gars qui est à regarder. Il était un peu dans l'ombre de Blake Corum puis de tout le jeu au sol de cette équipe-là, puis justement de ce qui se passait. Mais j'étais quand même intéressé à ses performances cette année. Donc, je voulais en faire mention puis en parler. La raison pour laquelle, avant de commencer à parler, je capote un peu parce que je le trouvais même pas dans le. Je le trouve même pas Roman Wilson dans le. J'ai G. Wilson ici. Je sais pas si ils se sont trompés. Mais sinon, je ne le trouvais même pas dans le. dans le repêchage at all. Fait que,
moi, c'est une erreur parce que quand je regarde le classement que j'ai de mon côté, je suis sur le site de CBS Sports. Il n'y a aucun autre Wilson qui est répertorié là, okay. dans les 25 meilleurs.
Ah, non, il est pardon. Roman Wilson. Fait,
top 60.
Ouais, top 60, mais il en parle comme étant un system player. Je sais pas c'est quoi le système. Un système qui lance pas puis qu'il y a juste des courses au sol. C'est ça le système qu'il faut pour être productif. Mais...
En fait, il pourrait être très bon que les Ravens de Baltimore.
Oui, c'est ça. Il n'y aura pas besoin de jamais attraper de ballon.
Hey, ma Faf, je regarde le temps passé puis je veux pas qu'on coupe ça trop court, mais on a-tu vraiment besoin de parler des Titans, à l'exception du seul Titan qui est dans une classe à part unique, un talent top 5?
Ben non, là, c'est sûr qu'on peut passer vite. Là. Brock Bowers, top 1, c'est un baller, puis top élite, là, je veux dire top 5. Ça va.
Moi, j'espère juste qu'il va pas flopper à l'image de. J'oublie son nom, le gars des Gators qui a été repêché par Atlanta, 4e au total.
Kyle Pitts,
ouais, merci Faf. J'espère qu'il bustera pas comme Kyle Pitts. J'ai l'impression que Brock Bowers, c'est vraiment comme de shit. Là, c'est
il a plus l'air brillant aussi.
Il a plus l'air brillant, il a plus l'air concentré football. Je pense que, tu sais, on parlait des receveurs tantôt, on parlait de Marvin Harrison qui était dans une classe à part pour la majorité des analystes. Brock Bowers est dans une classe non seulement à part, mais il n'est même pas proche des autres gars. Puis je sais qu'on a fait une liste, on peut en parler rapidement, mais ce gars-là est un talent top 5 qui va probablement partir dans le top 12, top 15, parce que tight end, ce n'est pas la position qu'on utilise le plus. Mais encore là, avec le nouveau règlement dans la NFL, il y a peut-être des équipes qui vont dire « Hey, wait a minute! » Tu me dis que je peux aller repêcher un gars de 6 pieds 6, 200, quoi, 245.
Que tu peux pas plaquer par en arrière.
Je peux pas le plaquer, fait que peut-être qu'il va sortir plus haut qu'on le pense. Donc.
Ben moi, je me suis fié à ça, en fait, pour aller chercher mes gars à moi, parce que les gars que je vais parler, les trois que je vais parler après Brock Bowers, c'était Jatavion Sanders de Texas, 6 pieds 4, 243 livres, deux bonnes dernières saisons. Même PFF, ils ont leur hype dessus, ils le mettent en top 40. Après ça, tu as Cade Stover. J'avais choisi cette liste-là avant de voir celle de PFF pour être 100% honnête. C'est le troisième que eux, ils classent, là, puis ils classent dans le top 120. Fait que rendu là, on est à la limite de. C'est un gars de 6 pieds 4, 251 livres. Fait que j'ai visé les gars qui étaient gros puis qui étaient pesants. Puis le prochain là, dans le top 140 que toi tu voulais parler, c'était Ben Sinnott. Que PFF, ça a été un bon tester, mais PFF le met 140e. Puis pour finir,
c'est wow, que je le trouve quand même bas. Je pense, moi, je le vois peut-être plus comme un talent de troisième ronde max.
Il met quatrième ronde, puis c'est vraiment low. Là. Fait que je sais pas c'est quoi le hype, c'est Titan cette année, mais c'est pas très fort à ce niveau-là.
Mais ça va être quand même intéressant. Puis on vient de le dire, on n'a pas vraiment parlé des règlements NFL parce que c'est pas notre spécialité parler de la NFL, mais. Est-ce qu'on va voir un changement de garde un peu au niveau de comment que les équipes... Pas un changement de garde, mais un changement de tendance au niveau de comment que les équipes vont repêcher, parce que veut pas, comme tu viens de dire, on vient de parler de 4-5 gars, c'est tous des gars de 6 pieds 4, 6 pieds 6, 6 pieds 3, qui pèsent tous 2,40 plus. Comment tu plaques ça avec les nouveaux règlements que la NFL ont mis? J'ai l'impression que les tight ends vont potentiellement devenir une espèce de nouvelle... source de joueurs, entre guillemets, pour les équipes de la NFL, parce qu'on va se servir d'eux comme on ne peut pas les plaquer. Fait qu'on...
Ben, comment je vois ça? Je me demande sincèrement si comment ça va être enforced comme règlement, puis si ça va amener un changement instantané. T'sais. Je pense que cette année, là, les joueurs défensifs, là, ils vont pas soudainement plaquer différemment. Ils vont juste fucking se faire flaguer. C'est ça, moi, ma crainte là-dedans, c'est qu'ils vont pas soudainement changer toute leur... T'sais, t'arrives fair and square avec Derrick Henry, avec Mark Andrews, avec Gronkowski, avec Travis Kelce. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas le splitter en deux puis essayer de le plaquer face à face. Là. C'est bien plus facile d'arriver sur le côté, de me prendre après ses hanches puis de l'amener au sol. Fait, j'ai bien de la misère avec la mise en place de ce règlement-là puis l'application de ce règlement-là. Fait que je me demande vraiment si les équipes vont comme cacher in sur ça. En tout cas, à court terme, je suis vraiment pas sûr. Mais... s'il y a vraiment soudainement un changement de façon de plaquer et que ces gars-là deviennent inarrêtables, ben si c'est pas cette année, l'année prochaine, là, les gros bonhommes vont sortir et ça va juste être t'en prends balle puis personne va pouvoir te plaquer. Tu sais, fait que...
Je sais qu'on n'en a pas parlé, mais je suis quand même curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Est-ce qu'on va voir plus de gars y aller pour des plaqués plus bas au niveau comme des quadriceps, des genoux, ou est-ce qu'on va voir plus de horse collar qu'on appelle?
Tu peux pas attaquer un gars à hauteur des épaules, tu vas te faire traverser. Là. T'sais, ben, c'est des cornerbacks qui ont ma shape puis ta shape, puis je veux dire mon poids, mais fucking en forme, là, pas comme moi. Donc, ces gars-là, là, quand tu vois, n'importe quel, là, A.J. Dillon sort du backfield, là, t'arrives à Fansquare avec ce gars-là, tu veux pas le plaquer, là. Gus Edwards sort du backfield, tu veux pas le plaquer. Des Jammer Gibbs qui sont un peu plus petits, ça va peut-être être un gars que tu vas vouloir aller plaquer ou que tu vas vouloir aller affronter là, pour le plaquer puis le dominer physiquement. Mais ça fait partie, tu sais, le but du jeu, c'est d'arrêter le joueur en face de toi. C'est pas nécessairement d'y donner un coup à la tête, c'est pas nécessairement de te faire traverser. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est vraiment étrange comment ça va être, effectivement, là, ça va être quoi les vraies méthodes, ça va être quoi la bonne méthode, tu sais. Il va falloir qu'il y ait une bonne façon de faire, puis si c'est pas fait selon cette façon-là, ça va être pénalisable. Ça, c'est bien trop tough, là. Bref. On voulait pas parler longtemps des tight ends, fait qu'on va skipper tout de suite. Je pense qu'on va finir avec ça pour aujourd'hui. Là, on va parler des running backs. On a parlé des running backs, une vraie classe de mal-aimé. Puis moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ce que j'entends présentement sur les running backs parce que on en a écouté des matchs, tu l'as dit en entrée de jeu, il y a beaucoup de matchs qu'on a regardés, puis il y a beaucoup de fois cette saison que j'ai vu des jeux explosifs, des joueurs explosifs, j'ai vu des joueurs elusifs, j'ai vu des joueurs impressionnants, avec des bonnes statistiques, somme toute, puis vraiment un disrespect au niveau de tous les experts puis tous les boards. Là, fait que je vais te laisser parler des premiers running backs que toi, tu voulais parler, parce que je pense que toi, tu sors encore plus de la boîte que moi à certains niveaux. Puis je suis curieux d'entendre là, ton choix, là, surtout tes premiers choix là, de pour les running backs.
Ben écoute, il y a plusieurs personnes qui mettent Jonathan Brooks comme leur porteur de ballon numéro un. Mais encore là, il y a un gros flag, il s'est pété le genou cette année. Quand tu es un porteur de ballon, on se le disait, je ne sais pas si c'était au début de podcast ou avant qu'on enregistre, on est en 2024, les technologies ont changé, les joueurs se remettent de cette blessure-là. Oui, ils s'en remettent, mais pas si leur genou est hyper utilisé, un peu comme les running backs qui doivent changer de direction. Donc, pour cette raison-là, je suis obligé de mettre Jonathan Brooks un petit peu plus loin, je le mets deuxième dans mon classement. De mon côté, j'y vais avec Braylon Allen, le porteur de ballon des Badgers du Wisconsin. C'est un gars qui, dès son année recrue avec les Badgers, a explosé, a dominé la Big Ten. Puis c'est une domination qui a continué tout le long de sa carrière. On n'a pas parlé beaucoup de lui tout au long de son passage avec les Badgers, principalement parce que Wisconsin, ça a été difficile depuis 3, 4, 5 ans. Puis c'est pas de sa faute parce que Braylon Allen, à chaque semaine, se présentait, mettait des statistiques de plus de 100 verges, semaine après semaine. Il y a plusieurs matchs d'au-dessus de 200 verges, si je ne me trompe pas. Il faisait beaucoup de touchés. Braylon Allen va probablement sortir en deuxième, peut-être même troisième ronde. Mais j'ai l'impression que c'est un gars qui, dès l'an prochain, on va s'arracher son nom en fantasy football. J'ai l'impression qu'il va mettre beaucoup de statistiques au tableau. J'aime sa versatilité. Les porteurs de ballon de Wisconsin ont tendance à connaître de beaux moments dans la NFL. Je pense pas qu'il va changer la lignée qu'on voit là, depuis quelques années avec les Badgers.
Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que je l'ai vu courir et c'était quand même assez impressionnant. Pour ton info, PFF le met 145e, donc un joueur de 4e ronde à l'heure où on se parle.
Wow. Okay.
C'est à voir qu'est-ce qui en découle. Moi, le joueur que je veux vous parler, c'est un joueur que t'es un peu hésitant sur lui, mais j'ai pris le temps de creuser un peu, puis je pense que la stabilité est vraiment au rendez-vous. Donc, Blake Corum, running back de Michigan, le meilleur running back cette année. 5 pieds 8, 213 livres. C'est vraiment un format que j'aime. Un petit gars, mais quand même assez costaud. A 3600 verges dans ses trois dernières années. Ça fait une moyenne de 1200 verges par année. Là. Donc, l'année passée, il a même couru pour près de 1500 verges dans son année. Vraiment impressionnant. Mais la chose la plus impressionnante, c'est que cette année seulement, 27 touchdowns en finale aussi, là, parce que c'est le gagnant du Natty, en finale, a couru pour 134 verges avec 2 touchés. C'est une performance comme ça en prime time. Sign me right fucking now, man. Ça n'a pas de sens, là, pour vrai. Donc, moi, ce gars-là, ça me dérange pas de le voir sortir très haut dans le repêchage. On sait qu'il est capable de performer quand ça compte le plus, parce que on l'a analysé, là, le Natty, ensemble, là. Puis on l'a dit, là, le succès pour gagner pour Michigan, c'est de courir le petit ballon. Si 4 crises de taupins sont capables dans leur sous-sol de prédire que Michigan vont courir dans la face de Washington puis qu'ils vont réussir à gagner de même, probablement que le DC de Washington aussi avait pensé la même crise d'affaire. Puis malgré le fait qu'ils s'en attendaient et qu'ils savaient que ça allait aller là, c'est quand même fait piler dans la face pour 134 verges par un running back, plus 2 touchés, donc une estie de longue course à un moment vraiment opportun dans ce game-là. Rendu là, je me dis, le gars savait qu'il était à la target, savait qu'il allait essayer d'être arrêté. L'autre équipe le savait, tout le monde dans le stade le savait, tout le monde aux United States of America le savait. Il a quand même réussi à courir ça. Je peux pas espérer mieux du premier running back que je vais repêcher cette année.
Moufaf, j'ai des doutes pour 2 raisons. Tu l'as dit, 5 pieds 8. La grandeur, ça s'ajoute pas puis ça s'enseigne pas. Puis le plus gros flag que j'ai pour moi, c'est qu'il évoluait derrière potentiellement, sinon la meilleure ligne offensive au pays. Si une équipe le repêche avec une ligne offensive un peu poireuse, à 5 pieds 8, c'est pas lui qui protège le mieux son corps arrière. Je ne sais pas à quel point que c'est potentiellement le meilleur porteur de cette classe. Je suis peut-être juste un hater ici de Michigan en disant ça, mais Michigan avait une ligne offensive incroyable, puis je ne sais pas à quel point que Corum est bon ou sa ligne offensive le rend bon?
Je peux pas être en désaccord avec ce que tu dis, mais oui, effectivement, il y aura peut-être pas toujours des bonnes lignes offensives en avant de lui, sauf que on saura pas comment il performe devant une mauvaise ligne offensive tant qu'il l'aura pas vécu. Puis j'ai des doutes de penser qu'il va être capable de s'en sortir, je pense. J'ai pas de point comparatif. Là. Je dis pas que c'est un futur Barry Sanders ou je sais pas trop quoi. Là. C'est pas ça l'idée. Je pense qu'il va donner des fiers services aux équipes pour qui il va jouer. Tu me parles de ton boy de Florida State. Je trouvais ça intéressant comme choix.
De Trey Benson. Trey Benson, pardon, porteur de ballon, là, on parle d'un gars de 6 pieds 1, 223 livres. C'est un gars qui montre de belles choses, que ce soit au niveau de ses courses, mais aussi capable de servir de ses mains. On l'a vu au courant de la saison 2023, les Seminoles aiment ça amener de la variété dans leur jeu, aiment ça utiliser leur porteur de ballon en jeu aérien. Puis en plus de ça, il protégeait bien son corps arrière. Jusqu'au moment qu'il se blesse, malheureusement. Mais Trey Benson amène une versatilité intéressante. Selon moi, puis je ne sais pas si je vais me faire lancer des roches pour ça, mais à 6 pieds 1, 2, 23, je pense que tu as vraiment un gabarit pour le travail. On dirait que c'est un peu comme ma carte cachée du repêchage. C'est un gars que je ne veux pas trop parler. J'ai l'impression que s'il est repêché à la bonne équipe au bon moment, pourrait exploser, puis pourrait être le genre de gars que je veux repêcher dans mes équipes de fantasy ou même Dynasty Football.
Ouais, j'avoue, c'est un bon bonhomme. Moi, je veux te parler un peu d'une carte cachée parce que je l'ai vraiment découvert cette année là, à TV, live dans une game. Je vais vous parler de Audric Estime, des Fighting Irish de Notre-Dame, un bonhomme de 5 pieds 11, 227 livres. Okay? Ça, c'est My man, c'est la shape que j'aime, un gros bonhomme, très costaud. J'adore ça parce que pour moi, dans ma tête, ça me dit longévité. Ça dit que le gars, il est tough, ça dit que le gars, il est fort, ça dit que le gars, il est capable de prendre un load de travail exceptionnel. Et pourtant, il vient tout juste de sortir du garage. Il est flambant neuf. Ça fait 3 saisons qu'il joue pour Notre-Dame. En 2021, il a porté le ballon 7 fois. En 2022, il l'a porté 156 fois. Puis en 2023, il l'a porté 210 fois. Donc, en carrière, il a 375 portées. Tantôt, je vous parlais de Blake Corum. Il y en avait plus que 600. Je vous parle de certains running backs qui en ont plus que 700. 750 en carrière. Ce gars-là, il y en a 375. Il y a la moitié du workload que n'importe quel autre running back qui sort peut avoir. Ce gars-là, pour moi, c'est inestimable, cet avantage-là, sérieusement. On en parle souvent des running backs. Ça se blesse, on peut en changer, on peut en flipper. Là. On flippe une roche, on trouve 3-4 running backs. Mais pour moi, la shape, l'agilité qu'il a. Il n'a pas été le meilleur. Il n'y a pas de bombe à côté de son nom selon PFF. Là, fait que il n'y a pas eu des grades exceptionnels au niveau des testings. Je ne sais même pas s'il est allé au combine, en fait. Là, mais moi, je ne peux pas le laisser pour compte, ce joueur-là. S'il est comme un neuf. C'est un jouet flambant neuf. Là, ça se revend à très haut prix sur Marketplace. Là, rendu là, c'est incroyable. Là, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'est pas plus hype que top 120 pour ce gars-là. Ah, puis 3 ou 4e round. C'est ça, fait que Audric Estime, ça serait mon deuxième que je voudrais parler. Je vais enchaîner tout de suite avec mon troisième, puis mon choix est un petit peu out of the box. Je vais vous parler de Martian Lloyd, qui est le running back de USC. 5 pieds 9, 210 livres, encore là des gros jambons. Il a eu une très bonne troisième année en carrière. Faut se rappeler qu'il vient des Gamecocks, lui, justement, de South Carolina, avec couru pour 573 verges l'année précédente, 9 touchés. Cette année, a couru 116 fois, mais pour 820 verges. Donc, il a augmenté de beaucoup sa moyenne de verges par course. 9 touchés pour cette année aussi. Donc, faut pas oublier une chose, là. Il a juste 820 verges, sauf qu'il jouait dans l'équipe de Caleb Williams. Caleb Williams lançait le ballon 57 fois dans une game. Là. Fait que ça laisse beaucoup moins de portée pour les running backs. Ça, c'est une chose qu'il faut considérer quand on regarde certaines statistiques. Quand l'équipe courait plus ou passait plus, clairement, cette équipe-là avait un playbook aérien beaucoup plus développé en ayant Caleb Williams que Marshawn Lynch pouvait, Marshawn Lloyd pardon, pouvait se faire remarquer, mais il a quand même réussi à pull ces stats-là. Fait que je suis vraiment impressionné par ce joueur-là pour ces raisons-là. Ça va être un bon running back dans la NFL. Là. Il va partager la balloune avec d'autres gars, puis il va rouler dans un backfield en comité à 2 ou 3, puis il va réussir à gagner là, des 50-75 verges par game, là, je pense, assez facilement. T'en avais-tu un dernier dans ton top que tu voulais parler? On en a un commun. Je serais intéressé de savoir pourquoi tu veux parler de le top 5. Pourquoi tu l'as mis là, toi?
Mais écoute, Ray Davis, c'est un gars que j'ai découvert cette année avec les Wildcats de Kentucky. C'est un gars qui est à quoi? 5 et 10, 2, 20 à peu près. Puis il court vraiment comme un gros bonhomme. C'est quand il court, tassez-vous. On parle d'un gars qui a porté la balle 199 fois. 1129 verges, 14 touchés. On parle d'une moyenne de 5.7 verges par portée. Malgré le fait qu'il est un petit peu plus petit que lui, de la manière qu'il court, de la manière qu'il joue, il me rappelle les belles années de A.J. Dillon qui évolue avec les Eagles de Boston College. Est-ce que ça va être le même type de joueur? Ben, on parle de quand même 20-25 livres de différence entre les deux. Mais de la manière qu'il joue, c'est un gars qui bloque bien. J'ai l'impression qu'il peut devenir un porteur de ballon 2 dans la NFL assez rapidement. C'est pas le genre de gars qui... juste le voir, je me dis, ce gars-là va protéger son corps arrière, va créer du temps pour son équipe. On parle pas ici des meilleures mains, mais quand même, cette année, quand même mis là, 323 verges aériennes, puis 7 touchés par la passe. Donc, une versatilité qui est intéressante. Je pense que c'est un gars qui se fait repêcher en troisième ronde, qui devient un porteur de ballon numéro 2 dans la NFL dès la semaine 1. Rajoute un peu de poids sur sa charpente, puis il me rappelle AJ Dillon. Donc, je suis obligé de le mettre dans mon top 5. Je pense que c'est un gars qui va avoir un impact assez rapide dans la NFL.
Yes, sir. Moi, ça fait le tour pour mes running backs, honnêtement. Yes. J'ai parlé de ce qu'on voulait parler. Puis pour Ray Davis, je l'avais aussi dans ma liste. Puis j'étais un peu les mêmes choses que toi. Là. J'avais les mêmes réflexions de toi à ce sujet-là. Pour les tackles puis les O-line inside, j'ai vu que tu avais sorti des noms. Pour être 100% honnête, j'ai pas fait mes devoirs à ce niveau-là parce que c'est tellement technique comme position, c'est tellement difficile. On se rendra pas compte, là, mais ce que Dion faisait, là, c'était vraiment impressionnant comme travail pour être capable de nous sortir nos gros noms, des gros joueurs, des gros bonhommes. Faut leur donner de l'amour. Puis c'est vraiment pas un... comment je peux dire, c'est vraiment pas un manque de respect pour eux, c'est juste que c'est tellement difficile, on n'a pas des statistiques, on n'a pas du tape précis sur eux autres à certains niveaux, fait que c'est plus tough de faire une bonne analyse. Fait que pour moi, cette année...
Moi, c'est surtout que j'ai pas envie de répéter le nom Olumoyuama Washanu de Penn State. J'ai scrappé son nom.
Washanu de Penn State, ouais. Ben, Troy Fotamu. Il y en a plein, mais tu sais, ils vont en avoir des bons bonhommes. Puis si votre équipe repêche un O-line, là, dites-vous que c'est un high value. Sauf si ça s'appelle les Patriots, puis ils ont pris. C'est qui les titunes qui ont pris en première ronde il y a 2-3 ans qu'on n'avait jamais entendu parler?
je m'en rappelle pas.
Bref, ben voilà, ça fait le tour pour ce premier podcast du repêchage des skills players offensifs. On va essayer de se reparler là, soit la semaine prochaine, dans 2 semaines avant le repêchage pour vous parler des défensives aussi, peut-être des beaux noms ou des noms de joueurs que vous n'avez jamais entendus. Donc, tout est possible à ce niveau-là. Wallet, merci beaucoup pour ton temps. Yes. C'était bien cool.
Merci encore pour m'avoir reçu. Yes, dans ton sous-sol.
Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là. On se parle une prochaine fois. D'ici là, je vais vous dire, soyez sages, aimez-vous. Bye-bye.